6 et 7 juin, c'est les 20 ans, il va s'en passer des choses. Je vous propose d'écouter un extrait et puis je vous en parle après de l'artiste. Hein. En tout cas, il se nomme Jack. Jack, il a un nom de famille et il a une voix et il est anglais et il vient à Sassonap et c'est gratuit. Ça va être cool. C'est toujours cool Sassonap. Come on baby, tell me what you want. Cause you say you love me, then you say you don't. Picking flowers is a childish game. Then my heart blossoms when you say my name. I think about you like all the time. Are you getting tired from running all around my mind? Fuck around, find out and see. Get stuck in these feelings with me. Don't let me sit here in my thick feelings. Honey, I got thick feelings. Don't wanna stop these thick feelings. My head's feeling all the these thick feelings. Don't let me sit here in my what I need. Cause you took my love and then you took your leash. You only want me when you're sober. Do you think of me now it's over? Cause I think about you like all the time. Are you getting tired of running around my mind? When will you sit down and see? You can get stuck in these feelings with me. Don't let me sit here in my thick feelings. Honey, I got thick feelings. Don't wanna stop these thick feelings. My head's reeling all these thick feelings. Don't let me sit here in my voilà qui est bien propre. Jack Garratt est un multi-instrumentiste britannique, hein, révélé dès son premier album Phase, sorti en 2016, un opus classé dans le top 5 du UK album, s'il te plaît, et aussi récompensé par prestigieux Critics Choice Award. Après une tournée mondiale et un succès critique, il poursuit son parcours avec Love, Death and Dancing en 2020, un second album où il explore de nouvelles textures électropop et un ton plus introspectif. En 2025, il dévoile Pillars, un disque profondément personnellement marqué par son évolution artistique et intime. enregistré dans son studio de Londres. Ce troisième album navigue entre pop, soul, électro-funk et folk. On vient de l'entendre, là, clairement, témoignant d'une période de la reconnaissance, de la reconstruction et d'un travail d'écriture plus vulnérable. Bref, Jack Garage, je vais arrêter de vous lire sa bio. Il viendra à Sassonne à la Porte gratuitement 5, 6 et 7 juin. Alors, fais pas les 3 jours, hein, Loustique. Je sais plus quand est-ce qu'il joue. Peu importe, la prog est dingue. C'est un anniversaire et on avait envie de le relever. Le titre que nous avons partagé se nomme FIC, T-I-2-C, T-H-I-2-C. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Ouh. Et quand on passe un anniversaire, les 20 ans de ça sonne à la porte, 5, 6 et 7 juin, on parle d'un autre anniversaire en compagnie de Didier. Bonjour à toi Didier.
Bonjour.
On va parler d'un 30 ans. Ça y est, t'as eu 30 ans, Didier ? Ça y est ?
Oui, c'est ça. Oui, il y a longtemps. C'est
vrai. Didier, tu fais. Ce qui est cool, c'est que voilà, tu partages l'information. On rappelle, hein, tu es le patron, le fondateur, le directeur, le gérant de BD Libre. On peut mettre le terme qu'on veut, en tout cas, de ce si bel endroit dans lequel voilà, on peut se plonger et ouvrir page sur page de petits formats, de grands formats, de choses un peu exceptionnelles, des choses plus légères et des textes forts ou alors des dessins majestueux, voilà un peu le temple de la BD pour pas dire à Évreux et les alentours. Et en fait, tu vas recevoir un artiste qui fête ses 30 ans de carrière.
Effectivement,
c'est énorme.
Effectivement, oui. Fred Duval, qui est un scénariste BD qui est rouennais et qui fête ses 30 ans de carrière et surtout là en avril qui célèbre la sortie de son 200e album.
200e album.
C'est hallucinant.
Oh, oui. C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Ça représente un peu plus de 6 albums par an au scénario. Et surtout ce qui est énorme, c'est que pendant 30 ans, il a sorti au moins un album chaque année. C'est surtout la longévité et puis la régularité de son travail qui frappe.
Alors, il s'appelle Fred Duval.
C'est ça.
Ce monsieur, il est donc rouennais, c'est incroyable, mais vrai. Et ce monsieur, à partir d'aujourd'hui, vous propose de vivre quoi ? Parce que je crois que ça commence aujourd'hui l'expo, hein, c'est ça ?
Oui, l'expo, alors elle est ouverte samedi, on avait signé l'installation un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est aujourd'hui l'ouverture officielle de l'exposition. Pendant 2 mois, en fait, on va montrer au public une trentaine d'originaux qu'il a sortis de sa collection personnelle, parce que fréquemment, quand un scénariste travaille avec un dessinateur, une dessinatrice, il aime bien garder un petit souvenir de ce travail, et puis il y a un dessin ou une planche originale qui se garde. Et là, en l'occurrence, donc Fred Duval a une très belle collection, et de cette collection, donc une trentaine d'originaux qu'il nous a prêtés, qu'on va exposer jusqu'au 30 mai à la galerie BD Libre, juste à l'arrière de la librairie. Et ça représente en fait un voyage dans la BD depuis 1995.
Bah c'est énorme, bah ouais.
Tous les styles et tous les genres qui sont représentés.
Ça fait presque mini musée, quoi. Je veux dire, il a traversé les époques, le monsieur. 3 dessinés, s'il te plaît.
Oui, tout à fait.
Alors, Didier, pardon, tu nous as dit scénariste, mais pour celles et ceux qui connaissent moins bien, donc c'est lui qui imagine les histoires, qui les crée, qui les écrit. Pas du tout de coup de crayon, de dessin, le monsieur. Il s'est toujours entouré.
Oui, c'est ça. Il s'entoure toujours d'autrices. Alors, il co-scénarise. Parfois, il a la production qu'il a. Il y a des séries, certaines séries qu'il a réalisées avec un co-scénariste. Mais sinon, voilà, c'est lui qui imagine, qui écrit ses histoires et qui donne naissance à beaucoup de séries qu'on connaît, qui sont maintenant devenues des classiques.
Justement, j'allais te demander. Il a bossé sur quoi, par exemple ? Il est le papa de quoi ? Il est l'auteur de quoi ? Il a contribué à quoi ?
Alors, il avait démarré avec une série qui s'appelle Carmen McCallum, qui est de la science-fiction un petit peu futuriste et qui mettait surtout que l'originalité là, de mettre en avant une héroïne à une époque où il n'y en avait pas beaucoup. Hein. C'était l'époque où il y avait des 13, des Torgal, des héros comme ça. Et lui a créé Carmen McCallum, cette héroïne très forte qui a traversé... les âges aussi sur ses 30 ans de carrière. Et puis il l'a fait plus récemment, il avait travaillé sur une série qui s'appelle Renaissance, qui dès le premier tome avait une nomination au Festival BD d'Angoulême, donc très belle reconnaissance. Mais à côté de ça, il est allé voir un petit peu partout, il a adapté des romans de Michel Bussy, notamment le premier qui a été adapté, c'est Nymphéa Noire, Et c'est lui, parce que Michel Bussic est rouennais aussi, donc ils se sont rencontrés un jour via des rencontres d'auteurs. Et ensuite, il est allé vers le polar, mais il a aussi travaillé, je parlais des séries classiques comme 13 ou Torgal, il a travaillé sur des hors-séries de la série 13 et de la série Torgal, plus récemment, il y a 2 ans, exactement. Donc voilà, il va toucher vers le polar, ce qui l'a fait vraiment connaître, c'est tout ce qui est science-fiction, anticipation aussi. Et son 200e album, c'est exactement ça, c'est Metropolia, ça s'appelle. Et ça se passe dans le Berlin en 2099, Berlin devenu une ville-monde, dans laquelle il y a toutes les préoccupations qui nous touchent actuellement, l'écologie, qui est un peu politique aussi. Et voilà, c'est aussi un touche-à-tout en plus, et grand fan de musique.
Ah ouais, bah ça va, il a bon goût le monsieur alors.
Oui.
Alors c'est énorme parce que voilà, tu dis l'avoir installé là, ces planches un peu inédites. Hein, on rappelle les planches, c'est un peu ses esquisses. C'est ainsi qu'on présente son travail des éditeurs ou éditrices. C'est les essais du travail très personnel d'un auteur, hein, clairement. Oui. Et là, on va voir des œuvres quasiment uniques et exclusives qu'il vous a mis à disposition. Ça fait partie de sa collection personnelle. Ça veut dire que souvent, les auteurs ou dessinateurs se gardent des choses comme ça, très, très personnelles, très originales.
Oui. Ben les dessinateurs et dessinatrices en fait gardent, parce qu'effectivement, c'est le document unique, original, puisque c'est celui qui est donc dessiné, qui va ensuite être scanné et qui va permettre d'imprimer les albums. Donc certains peuvent travailler en numérique, mais beaucoup travaillent encore ce qu'on appelle méthode traditionnelle, ça, de dessiner directement sur une planche de papier, d'où le nom de planche originale. Et là, on expose. Alors, ce qui est marrant, c'est que chaque auteur a un peu ses méthodes, ses tailles de papier. Donc, on a vraiment des très grands formats, des planches qui font 50 centimètres par 60, 65 centimètres, jusqu'à ceux qui travaillent sur un format plutôt A3, 30 par 40. Mais il y a vraiment une diversité. Il y en a qui font les couleurs directes aussi dessus. Il y en a d'autres qui restent sur le crayon, donc sur les planches en noir et blanc. Et on voit vraiment différents styles, différentes méthodes. Et puis là, on voit le travail direct des dessinateurs, en fait, sur ces planches-là.
Super. Et puis, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que donc c'est exposé depuis samedi, mais démarre officiellement aujourd'hui, hein, mardi 7 avril, l'expo qui sera présente jusqu'au 31 mai dans ton lieu. On rappelle, 8 rue du Général Leclerc à Évreux, Bédélib. Voilà, on n'est pas loin du gros cinéma hébroïcien, d'une bonne crêperie et puis du centre-ville. C'est que le monsieur sera présent avec de nombreux co-auteurs ce week-end, vendredi. C'est ça? Et samedi?
Alors, vendredi et samedi. En fait, vendredi, il sera présent, c'est le vernissage de l'exposition.
Cool.
Avec donc pas mal de ses co-auteurs qui seront là, effectivement. Et samedi, il est là samedi après-midi pour une séance de dédicace avec, je parlais de Metropolia tout à l'heure, c'est une série qu'il réalise avec un auteur berlinois, donc qui viendra d'Allemagne, Ingo Römling, qui sera là samedi aussi avec lui, donc samedi après-midi pour une séance de dédicace.
La classe.
Et ce sera clôturé le samedi 30 mai par une autre pour boucler la boucle, avec une autre séance de dédicace, avec un dessinateur rouennais également, MM, avec qui il réalise, je parlais de la série aussi Renaissance, qui avait été nommée à Angoulême. Donc, à la suite de cette série Renaissance sera mise en avant le 30 mai pour boucler la boucle.
Bon, eh ben, merci beaucoup Didier. Puis moi, je sais que tu es un gentil, hein. Que vous ne soyez pas encore amateur de BD, de superbes ouvrages, soyez curieux et curieux et rentrez dans ce lieu. Utilisez justement peut-être cette porte d'entrée de l'exposition que tu proposes, hein, en totale gratuité. Oui. Et puis feuilletez, puis laissez-vous emporter par les conseils de tes salariés, combien sympathiques et compétents. Que sont Valentin et
Stéphane.
Stéphane, je l'avais sur le bout de la langue.
Et je finis en te disant aussi, parce que ça sonne à la porte, fête son anniversaire, Fred Duval aussi, mais Bédélib, c'est également un compte Miron, on va dire, parce qu'on fête nos 15 ans au mois de mai, cette année.
Bon,
donc ce sera aussi une année anniversaire.
C'est cool. Bravo Didier, bravo pour cet investissement, cette proposition, parce que le lieu est si chouette. Enfin voilà, je le dis souvent, mais franchement, vous le savez, vous amis hébroïciens et hébroïciennes, et puis vous qui êtes des alentours, voilà, passez pas à côté. On rappelle, Bédélib, rue du Général Leclerc, avec une expo incroyable et la présence de Fred Duval ce week-end, et puis des planches quasiment exceptionnelles est original, qui traverse les décennies, 3 décennies, 30 ans de carrière, c'est énorme. Mes respects, mon camarade. 200 œuvres au compteur, faut les sortir. Merci Didier de nous avoir accordé un instant.
Merci à toi, merci à vous.
Bel événement à toi ce week-end. Et puis moi, on va se croiser parce que moi, je vais venir voir ça. Je suis curieux, tu sais bien, je vais venir voir ça. bonne journée à toi Didier, merci de nous avoir consacré
bonne
du temps.
Aussi.
Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Allez, on repart en musique avec un concert qui lui va se dérouler au Cube. Il s'en passe des choses, parce qu'on l'a dit à Sylvain Les Moulins, à la Brasserie Sport, mais aussi au Cube, à Évreux, ça blague pas, il y a toujours et encore des bons concerts.
Here comes the lamplighter, here comes the night, and the nightingale singing in the dawning light. Dropping off, we started from of love, slides through the walls, and at what age she stopped wanting more, and politics of what is lost, when everything slides and the lights go off. I want to be the one still dancing when the lights turn on. Gold. See the light up at the end, then find it's gone. Now resign to vacancies in another life. Our robes are stored away, waiting for the knife. The root of gold slides through the walls, and at what age do you stop wanting more? It's lost when everything slides and the lights go off. I want to be the one still dancing.
On vient d'écouter le groupe Memorials avec le titre Lamplighter, duo britannique formé par deux figures emblématiques de la scène rock expérimentale. S'il vous plaît, Memorials a secoué le festival La Route du Rock l'été dernier. D'un côté, Verity Sussman, membre du groupe Cot Rock Electric Lane. De l'autre, Matthew Sims, connu pour son travail avec les mythiques Wire. Bref, ils seront là ce jeudi, s'il te plaît, en terre hébroïcienne. À partir de 20h, on sera le 9 avril, c'est donc bien après-demain. Et puis j'adore le blast de la première partie. Ce sont deux Belges, avec des Belges pour nous sortir des blasts pareils de nos groupes de ouf. Sauvage et authentique, il s'agit des chatons laveurs. Je le répète ou pas, chatons laveurs puissent son énergie dans le crotrock et l'indie rock des scènes des années 90. Les Belges Julie et Pierre créent une musique qui se vit sur scène. Ce sera la première partie de Memorials qui seront donc présents à Évreux ce jeudi, voilà, 9 avril. Donc vous l'avez compris, il y a un ciné-débat au cinéma Pathé, organisé par Amnesty International, l'antenne locale, avec la projection du film Tout va bien, et derrière une discussion. Et puis bah en parallèle, si vous êtes plus musique, eh bien il y a la possibilité à 20h de venir vivre un moment sympathique au Cube. Voilà qui est dit, voilà qui est fait.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors, sans
ça
être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
FDR à Rouen.
Oui, c'est bah... merci de toutes ces précisions.
FDR, principe actif.
C'est nous et c'est bien nous, 8h47, pétante. Et si tout se passe bien, le troisième coup de fil de la matinale. Incroyable, mais vrai, pour l'instant, j'ai pas eu de bug. Et pourvu que Dylan, tu sois bien avec moi. Bonjour Dylan.
Ouais, salut Deuze. Salut à tous les auditeurs. Bah, et ouais, non, bah écoute, pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air de bien se passer. Espérons que ça dure.
Ouais.
Normalement, le soleil est présent et de la sortie, donc j'imagine que tout ira bien.
Ouais, il y a de la sortie, il y a des concerts à venir, il y a des événements. Il y a effectivement plein de propositions artistiques dans les jours à venir, et je l'évoquais encore à l'instant, avec des choses en totale gratuité, des choses avec des prix moindres, hein, parce qu'on ne rappelle jamais assez que les salles de concert prennent quand même le pli de faire des offres avantageuses, hein, en fonction de son statut ou de ses moyens. Voilà, il n'y a pas toujours un prix fixe et figé pour accéder comme ça à la culture. Et puis, il y a d'autres cours pour la culture. Et toi, tu en es un aussi défenseur, un beau défenseur, Dylan. C'est que toi, à travers la structure du Microfolie à Conchanouche, eh bien, il y a plein de propositions, plein d'actions menées. On peut, s'il te plaît, Dylan, rappeler un peu ce qu'est un Microfolie, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plusieurs villes en France. C'est quoi? C'est démocratiser un petit peu ce qu'est le monde des arts et des musées.
Bien sûr, en fait, la Microfolie, ça part d'un constat global, en fait, qui était que la jeunesse fréquentait de moins en moins les musées, à l'échelle nationale, hein, évidemment, pas que par chez nous. Et en fait, la Villette, c'est plutôt le ministère de la Culture qui se concertait avec la Villette, a essayé de trouver un moyen, justement, de ramener cette jeunesse et des gens qui ne sont pas, comment je pourrais dire, attraits vers le monde de la culture, dans les musées. Donc ils sont concertés et ils sont restés sur un constat assez assez global en disant que effectivement les écrans c'était un peu le mode de communication d'aujourd'hui, et c'est bien vrai que par les réseaux etc. tout passe aujourd'hui par les écrans, et ils ont eu cette idée justement de créer un musée numérique. Qui a été la première chose en fait intégrée au dispositif Microfolie. C'est ce dispositif Microfolie d'ailleurs qu'on va trouver un petit peu partout en France en réalité. Comme tu le disais, il n'y a pas que par chez nous. Bon, d'ailleurs, on va en trouver une aussi à Évreux, une super qui est à Évreux, une à Pont-l'Évêque, une à Pont-Audemer. Enfin, il y en a beaucoup en Normandie. Il y en a beaucoup partout dans la France. Alors, j'ai plus le chiffre exact.
Ouais, je t'en prie, mais il y en a pas tant que ça quand même dans l'heure. Ouais. Pardon, je t'ai coupé, mais c'était pour dire que vous n'êtes pas non plus 50 hein, dans le département de l'Eure ou en Normandie. Hein.
Non, dans l'heure, on est trois.
Ouais,
bah, justement, Conches, ouais. Évreux et Pont-de-Mer. Et voilà, après, il y a plein de choses qui se sont greffées, comme un Fab Lab, qui est un laboratoire de fabrication, un espace de réalité virtuelle. Donc, il y en a, c'est des tiers-lieux complets. On va trouver des médiathèques, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de toucher au spectre de la culture, mais vraiment dans le sens le plus large possible du spectre. Et du coup, c'est aussi pour ça que on est en appel aujourd'hui.
Ouais, parce que toi, tu t'es approprié quand même la chose. Bravo à toi, Dylan. T'as certains catalogues d'actions possibles ou de possibilités, mais vous êtes toujours à vous creuser l'esprit pour proposer des choses un peu innovantes ou sympathiques ou originales ou tout simplement au goût des habitants des différents territoires. Et là, en l'occurrence, par exemple, toi, tu commences un stage qui n'est pas le premier, mais sur le mois, c'est ça ?
Et oui, c'est ça. Et en plus, un atelier qui va carrément t'intéresser, j'en suis sûr.
Bah oui.
Parce que on en a parlé déjà en amont, en fait. Hein, on fait style pour les auditeurs, mais on en avait déjà parlé. Et oui, on propose, par exemple, en avril. Alors, on le propose en fait sur toute l'année, mais c'est effectivement sur certains mois. C'est des ateliers du son. Les ateliers du son, qu'est-ce que c'est ? C'est un atelier en herbe où les musiciens débutants, expérimentés, en fait, ils vont pouvoir tester s'ils n'ont pas de matériel chez eux. Justement un peu leur musique, ils vont pouvoir enregistrer des maquettes, des choses comme ça. Nous, on a un peu de matériel et enorgueilli de quelques années dans le monde de la musique, comme tu le sais, du coup il est facile pour moi de tenir cet atelier et justement de prodiguer des conseils à ceux qui en ont besoin. Et l'idée, c'est que effectivement s'il y a quelqu'un d'expérimenté qui veut juste enregistrer sa maquette, et moi je lui passe le matériel à disposition et puis je lui fous la paix, je fais pas d'intervention et comme ça, enfin sauf si j'en a besoin évidemment, mais l'idée c'est de pouvoir vraiment mettre du matériel d'enregistrement et des connaissances aussi à des gens qui connaissent pas du tout le médium.
Ouais, parce que mine de rien, on sait que dans le milieu de la musique, surtout lorsqu'on est, clairement plus dans la, ce qu'on va dire, cette veine ou cette mouvance un peu rap, hein, qui n'est pas, exclusive, mais lorsqu'on est un peu dans ce domaine-là, qu'on ne connaît pas de beatmaker, les gens qui font du son, qu'on essaie soi-même d'en produire et qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'a pas le matériel, on entend des achats, on achète des prods, on entend parfois des ripages, on chope des instrus déjà existantes. Là, c'est la possibilité, mine de rien, d'apprendre à créer, à faire, ou quand on est un peu plus établi, d'enregistrer. Pardon ?
Et aujourd'hui, on peut faire ça justement très facilement, et ça fait partie aussi un peu de ma pédagogie que je vais inculquer justement à ces ateliers du son. L'idée, c'est de commencer à comprendre comment fonctionne une instrumentale, les accords, les temps, les petites choses comme ça. Ouais. Et en fait, ça fait beaucoup de notions, on a l'impression, mais en réalité, c'est plutôt assez simple. Surtout que je vulgarise beaucoup, au même titre que mes conférences sur l'art, etc. Je vulgarise beaucoup. L'idée, c'est vraiment de rendre tout accessible et pas d'essayer de créer une espèce de barrière justement où tout devient complexe. L'idée, c'est d'avant tout miser sur l'accessibilité et que tout le monde puisse repartir en disant « Ouais, mais c'est incroyable !» Et si je me mettais un peu plus longtemps, peut-être que je pourrais faire encore mieux.
Voilà. Et c'est bien dit et bien expliqué, Dylan. Et pour te connaître, effectivement, tu es ainsi. Il y a ce stage ce mois-ci qui va se dérouler sur tous les mercredis, c'est cela. Hein, ça va donc commencer demain, mercredi 8. Si on a envie de se greffer, si on veut te joindre, on fait comment ?
Alors, si on veut me joindre... on a une page Facebook justement Microfolie Conche où on va répertorier tous nos ateliers et du coup il y aura aussi justement un petit lien pour pouvoir réserver son créneau, donc on peut en prendre 1, 2, 3, on peut prendre même plusieurs heures à la suite. L'idée, c'est de fonctionner un peu comme un vrai studio, et sinon aussi on est sur Intramuros pareil où il y aura ce lien où on pourra s'inscrire, il y a le descriptif un peu nos ateliers qui sont en cours, etc.
Génial. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous importants qui sont déjà en tête ou notés dans l'agenda, parce que là c'est chouette, mais en fait le Microfolie c'est quasiment ouvert tous les jours, on peut pointer le bout de son nez, mais est-ce qu'il y a comme ça des petits événements à venir que tu avais envie de relever ?
Alors plus ou moins, on peut pas vraiment arriver comme ça quand on veut, parce que justement nous, la Microfolie à Conche, la spécificité en fait, c'est d'arriver, c'est surtout d'être ouvert pour un public scolaire, alors scolaire, associatif, structurel, etc. Par contre, on tient justement à être ouvert pour le public, donc la récurrence minimale, c'est tous les mercredis. Tous les mercredis, on va avoir des ateliers, mais du coup mis en place mensuellement. Je vais y venir après. Et un samedi par mois pour des ateliers beaux-arts.
Cool.
Des ateliers beaux-arts, il y a des artistes, des professeurs de dessin qui vont venir et qui vont apprendre des mouvements picturaux. On va travailler sur un artiste, comme le week-end dernier, on a travaillé sur Monet.
Claude de son prénom, hein, je connais, hein, je fais pas mon malin, mais s'il te plaît, c'était Claude. Oui.
Oui, effectivement. Claude Monet, où on a fait des tableaux en pastel gras, et puis bon, voilà, du coup, c'était cool. Assez incroyable. Et ce qui était encore plus, le plus incroyable, c'est que c'était un atelier spécial pour les enfants, on en fait un par an. C'est pas beaucoup, mais ils sont sortis, pour des enfants de 6 à 10 ans, ils nous ont sorti des chefs-d'œuvre incroyables.
Des trucs de ouf.
C'était quand même grave agréable. Et je reviens justement, effectivement, sur les autres moments qu'on a programmés, et je voudrais revenir dessus parce qu'effectivement, toi, ça va bien te parler aussi. On donne alors des cours de piano, c'est très présomptueux, mais on donne des cours de piano à l'aide de la réalité virtuelle.
Sérieux ?
Ça, sérieux, et en plus, on est, à ma connaissance, les seuls en France à le faire. Et donc, du coup,
Alors attends, faut m'expliquer, c'est du air piano ou il y a des vrais claviers quand même ?
Non, il y a un vrai piano, un beau, en plus, il est blanc.
On a des lunettes.
Alors si, parce qu'en fait l'idée de la réalité virtuelle, en fait en réalité on va voir le piano, on va voir nos doigts, okay. Et on va voir justement les touches qui vont arriver sur le piano. D'accord. Et donc ça va passer par le biais soit d'exercices, soit justement où on va pouvoir apprendre une chanson issue du répertoire plus classique, et on va pouvoir s'adapter à ça via la vitesse, etc. Mais avant ça, il est essentiel aussi de dire qu'il y a une espèce,